Saint-Gobain. C'est donc le premier moteur d'avion électrique 100% français développé en seulement 4 ans par Safran et qui a obtenu une certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Il pèse 40 kg, ce petit joujou, et il va pouvoir équiper des avions de loisirs sur des courtes distances. Et les futurs taxis volants, Safran commencera sa fabrication à partir de 2026 et vise 1 millier de moteurs par an. Raphaël Donjean, vous dites quoi? Vive les ingénieurs français, c'est un vrai tournant?
Je pense que c'est vraiment une avancée, oui. Et puis la France était déjà pionnière. Premier aéronef électrique, c'était un dirigeable français, 1884. Et maintenant, c'est une étape quand même importante. On nous a toujours dit que l'aviation électrique, c'était impossible. Maintenant, il y a un moteur qui est certifié pour faire des vols commerciaux. Donc c'est vraiment, je pense, une étape importante. Alors on est au début, bien sûr, de ces nouvelles technologies. Il y a encore des défis à résoudre. Mais je dirais que ce qui est génial, c'est de pouvoir imaginer que, un jour, on pourra voler.
Vous en avez déjà testé un ou pas, vous, d'avion électrique ou pas encore?
Alors moi, je suis pilote d'avion solaire et donc électrique.
Je vole dans l'avion électrique. Vous l'avez pas encore testé, ce moteur-là?
Ce moteur-là, non, pas encore. D'accord, j'ai pas encore eu cette chance. J'espère que ce sera pour bientôt. Mais c'est depuis 2015 que j'ai eu la chance de voler avec des avions électriques.
Laurent Castagnet de Sévigny.
Pas le moteur. Le sujet de base, c'est la quantité d'énergie qu'il faut embarquer dans un avion.
Pour faire fonctionner.
L'avion type d'aujourd'hui, c'est pas le petit avion qui va transporter deux personnes. L'avion type d'aujourd'hui, c'est un monocouloir biréacteur qui transporte 150 à 200 passagers. C'est ça le cœur de l'aviation civile. Et le sujet, c'est quoi? C'est quelle quantité d'énergie il faut embarquer dans cet avion pour pouvoir le faire voler aujourd'hui à 900 km/h sur plusieurs milliers de kilomètres. Et là, on a un problème de densité énergétique, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose de très dense. Et aujourd'hui, ça s'appelle un carburant liquide.
Et pourquoi ça serait pas
combustible? Un moteur électrique, il n'y a aucun problème.
Ça peut être
hybride. Donc le problème de base n'est pas la question du moteur. Le problème du base, c'est la quantité d'énergie qu'il faut par rapport aux besoins et l'envie qu'on a de transporter un certain flux de passagers. C'est ça le premier sujet. Et l'avion électrique, il ne faut pas croire que le moteur électrique, ça sera forcément une batterie. Alors pour des petits appareils, vous allez peut-être en parler, tout à fait. Mais sur un gros porteur, les batteries aujourd'hui, même demain, ça n'a pas du tout la densité énergétique souhaitée.
Le modèle ERA donc, est développé par Aura Aero. Alors eux, ils développent plusieurs types d'avions. Celui-là, ça sera un avion normalement de 19 places. Ça s'appelle l'avion régional, donc c'est certifié selon des qualités particulières. Ils ont abandonné l'électrique pure parce que c'était difficile, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Donc ils veulent hybrider.
Trop lourd, ça veut dire quoi, trop lourd?
En fait, les batteries, ça pèse le poids de l'avion pour le faire voler en électrique. Donc ça, on ne sait pas faire. Par contre, on pourra faire un Paris-Nice, éventuellement, avec un avion hybride de ce type, donc qui n'émettra pas de carbone. Après, il faut bien voir que quand on parle d'émissions, il ne faut pas parler que de l'émission lors de l'avion. Il y a aussi l'émission lors de la fabrication de l'avion, lors de la conception de l'avion, lors de la fabrication du matériel qui va... du carburant qui va servir à faire voler l'avion. Si on fait de l'hydrogène, on le fait avec quoi? C'est quoi l'électricité qui sert?
C'est une énergie fossile à 90%.
On peut le fabriquer, mais avec quelle électricité? Si c'est de l'électricité qu'on fabrique avec du gaz ou avec de l'essence, ça n'a aucun intérêt. C'est de l'électricité nucléaire, éventuellement, oui. Mais dans ce cas, d'où vient le carburant qui sert à faire des centrales nucléaires? Donc en fait, il y a toute une filière à envisager. Oui. Après, il y a d'autres moyens aussi pour faire voler les avions. Là, on parle du SAF, des e-carburants, c'est-à-dire des carburants qu'on va fabriquer à partir d'autres combustibles. Mais pour rendre la filière et l'aéronautique plus économe, et ça c'est vraiment une question
économe et propre.
Et ça c'est vraiment une question que la France prend très bien en compte, parce qu'on a une filière et qu'on a beaucoup d'industriels et tous les sous-traitants qui sont ici. Il faut prendre en compte éventuellement les déchets verts qu'on va utiliser pour faire le carburant qui va servir ensuite à aller dans un avion.
Et on va en des eVTOL, ce sont des espèces d'hélicoptères électriques. Ça, je pense, c'est pas pour tout de suite.
Ah bon?
Et je pense, si vous regardez un peu les projets qu'on a eu en Europe, comme Volocopter, 1 milliard de dépensés, ils sont faillis pour transporter une personne. Alors vous avez des hélicoptères classiques qui peuvent le faire.
C'était
un projet allemand. C'est un projet allemand qui a fait faillite. Moi, j'aimerais juste revenir ce qui a été dit avant, parce que je trouve un peu dommage. La France est vraiment un pays pionnier. Il fait des choses incroyables. Et il faut avoir cet esprit de pionnier. Quand les Fairwhite ont commencé à voler il y a plus d'un siècle, parce qu'on leur a dit quoi? On leur a dit, attendez, là vous avez fait votre truc, là vous avez volé 50 mètres, on ne transportera jamais des gens sur des grandes distances à travers un océan. Et on l'a fait.
Donc vous pensez qu'on pourra le faire avec l'électrique?
L'électrique qui permettra de former les pilotes, de faire des vols sur des courtes distances. On aura des avions qui fonctionneront avec de l'hydrogène liquide, avec des densités énergétiques qui sont bien au-delà de ce qu'on a maintenant avec le kérosène. Je vous rappelle qu'il y a 3 fois plus d'énergie dans l'hydrogène liquide par kilo que dans du kérosène. Donc on pourra faire vraiment des tours du monde. Donc on est capable de faire ces choses-là, et c'est mon travail. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune limite physique, on ne va pas à l'encontre des limites physiques. Donc il faut aujourd'hui que cette aviation, elle montre le chemin. Il faut qu'on soit de nouveau des pionniers, surtout par rapport aux États-Unis et à la Chine. Si l'Europe l'Europe veut être un peu en avant, il faut que l'aviation soit de nouveau pionnière, qu'elle montre ce qu'on peut faire et qu'elle montre aux jeunes d'aujourd'hui qu'on pourra rêver et toujours voler demain.
Laurent Castagnier,
on va mélanger deux choses. D'une part, l'énergie dont on parle, le carburant liquide, il faut voir que l'aviation, non seulement faire voler un avion, c'est relativement énergivore. Bon, on peut se poser des questions de mettre de l'hydrogène liquide. Attention, les réservoirs vont peser plus lourd que l'hydrogène lui-même. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que si je vous donne de l'hydrogène vert, on peut arriver à en fabriquer de l'hydrogène liquide vert. Le problème, c'est qu'on est dans le système des shadocks. Vous savez, les shadocks, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Aujourd'hui, l'hydrogène mondial industriel, c'est 100 millions de tonnes par an. C'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, si on arrive à produire de l'hydrogène liquide vert, mais la première solution, il n'y a rien à inventer. C'est de substituer l'hydrogène gris actuel dans le domaine industriel. Vous voyez ? Et l'avion, le cœur de cible de l'avion aujourd'hui, qui prend l'avion ? C'est de l'agrément, c'est du tourisme.
Oui,
et c'est énergivore. Donc pourquoi on irait, si on avait du carburant liquide vert, pourquoi on l'autoriserait à le dépenser de manière énergivore pour des touristes, alors qu'en fait, sur Terre, enfin, sur des moyens terrestres qui roulent, on pourra utiliser le même carburant liquide pour des trajets certainement beaucoup plus essentiels. Peut-être les pompiers, les ambulances, vous voyez. Donc en fait, il y a un problème d'affectation. C'est-à-dire, même si je ne le crois pas, mais j'ai peut-être tort, Aline, j'espère avoir tort, qu'il n'existera pas un jour un prototype d'avion à hydrogène. Admettons que, je vous suis, il existe. Ce n'est pas parce qu'il existe qu'en fait on basculera l'aviation avec ce carburant. Parce qu'il y a d'autres priorités et l'aviation, ça reste énergivore et c'est de l'agrément. Ce n'est pas la priorité d'usage de l'hydrogène.
Alors, que je rentre de Dubaï par l'avion de minuit.
Vous allez à Dubaï ?
Pour le travail, pour le travail. Parce qu'il y a des grands salons aéronautiques là-bas, j'y suis pour rien. Et quand je suis obligée de rentrer, l'aéroport, il est plein de gens pauvres. De gens qui vivent très 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 loin de leur famille et qui peuvent les voir qu'une fois par an ou tous les deux ans. Et ils n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion. Alors vous allez me dire, ils n'ont qu'à pas se faire exploiter à Dubaï, soit. Mais ils gagnent sans doute 10 fois le salaire qu'ils touchent aux Philippines ou en Indonésie. Donc ils viennent. Et ces gens-là, ils ont besoin de l'avion. Et l'Asie du Sud-Est, c'est le premier marché aujourd'hui parce que ces gens, ils ont besoin de l'avion. En Chine, ils ont 5 jours de vacances.
C'est plus démocratique.
Au moment du Covid, quand tout s'est arrêté.
Voilà, moi je viens de la côte atlantique, mais la côte basque, le bassin d'Arcachon, était rempli de touristes. Ce qui s'est passé, c'est quand il y avait beaucoup moins d'avions au moment du Covid, les Français qui d'habitude prenaient l'avion, ils sont venus en touristes sur la côte atlantique, et les Américains ne sont pas venus effectivement.
C'est
en tout cas, la côte atlantique n'a pas...
Durant qu'on appelle aussi les SAF pour Sustainable Aviation Fuel, ils sont fabriqués à partir de ressources renouvelables, comme les huiles végétales, mais très souvent c'est de l'huile de friture, et l'Union européenne a d'ailleurs adopté un grand plan en 2023 qui impose aux compagnies aériennes de voler avec un mélange de kérosène et de biocarburant. Et en 2050, 70% de carburant devra obligatoirement être durable. Aujourd'hui, nous en sommes seulement à 0,1%. Il va donc falloir faire cuire énormément de frites et de beignets pour arriver à répondre à ces besoins. Mais ce n'est pas un problème pour un pays, la Chine. En quelques années, elle est devenue le premier exportateur mondial d'huile de cuisson usagée, même si elle est aussi accusée dans le même temps d'y incorporer de l'huile de palme, dont la fabrication, on le sait, n'est pas franchement écologique. Et puis, il y a aussi d'autres biocarburants à base de résidus de bois. Après avoir été broyé, le bois est chauffé à très haute température, puis transformé en carburant liquide. Mais plusieurs associations estiment que, vu les besoins gigantesques, les forêts risquent d'être menacées et que finalement, déforester pour produire du carburant moins polluant, c'est une vraie aberration écologique. Et quant aux compagnies aériennes, eh bien, elles rechignent pour le moment à utiliser ces biocarburants. Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent 2 fois plus cher minimum que du kérosène classique. Caroline Bruno, finalement, c'est pas gagné cette histoire de carburant durable.
C'est vraiment le nerf de la guerre. Là, je discutais de ça justement avec un think tank qui a été créé par des écologistes, mais qui essaye aussi de penser à ça. Hein. Ça s'appelle Équilibre des énergies. Ça a été fondé par Brice Lalonde, vous voyez. Et il s'est allié notamment avec des énergéticiens.
Ancien ministre de l'Environnement.
Voilà, Total, pour ne pas le citer. Ils se sont pour réfléchir.
C'est dans les biocarburants.
Exactement. Ils ont sorti leurs résultats et la part des biocarburants, elle augmente dans leurs résultats. Ils espèrent qu'il y ait une filière, mais c'est très compliqué, c'est très difficile parce que créer une filière justement qui soit écologique, c'est-à-dire qui récupère réellement des déchets et qui ne détruisent pas l'environnement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire. Après, moi j'aime bien mettre ça en parallèle avec le train. Moi j'habite Toulouse, je suis venue en train tout à l'heure.
Et vous étiez à Dubaï l'autre jour.
Exactement. Et entre Bordeaux et Toulouse, on veut créer la LGV. La LGV, c'est quand même 6 000 hectares de terres agricoles qui vont être détruites. Donc voilà ce qui se passe aussi quand on choisit un autre mode de transport. Ça a aussi des conséquences écologiques. Donc il est nécessaire de mettre ces choses en parallèle. Ça transporte combien de personnes? Ça fait avancer comment l'économie? Tout ça est un équilibre qui est difficile à trouver.
Daniel, vous êtes aussi...
Une réponse qualitative à un problème quantitatif. On extrait du monde 100 millions de barils par jour.
Oui.
Mais en fait,
de barils de pétrole,
dont la majorité de l'usage, c'est de faire de l'essence, du gazole et du kérosène. En fait, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, oui. Déjà, vous avez dit biocarburant, je préférais qu'on dise agrocarburant parce que c'est pas du tout bio, hein, mais bon.
Je vous l'accorde.
Donc, les agrocarburants, si vous voulez faire voler tous les avions de ligne avec des agrocarburants aujourd'hui, c'est tout à fait possible à quelques petites adaptations près des moteurs, mais c'est juste que plus personne ne mange sur la planète. C'est-à-dire que la totalité des terres arables ne suffirait pas à produire les agrocarburants juste pour faire voler les avions. Et les avions, ce n'est que 12% des carburants liquides. C'est-à-dire, en fait, il y a l'automobile, les camions qui consomment encore plus.
Pour vous, il faut diminuer le trafic.
Et c'est nécessaire. Et après, il faut se poser la question.
Il va pas dans ce sens-là.
Combien, comment, à quelle échéance le diminuer? Après, là, on peut ne pas être d'accord et puis discuter de savoir est-ce que l'avion est très utile pour aller à une piscine à l'autre bout de l'océan pendant une semaine, une famille, voilà.
Très bien.
Alors qu'en fait, il y a des trajets.
Alors, Laurent Gassin.
J'aimerais juste quand même répondre à ce qui a été dit. Ces carburants, ça n'a absolument aucun sens.
Il faut garder en termes de rendement.
Voilà, un avion électrique, voilà, si on revient rapidement, un avion électrique qui fonctionne avec une batterie, il utilise 4 fois moins d'énergie brute qu'un avion classique avec qui on y met de l'essence. Parce que le rendement de charge d'une batterie, on est à 95%, le rendement du moteur électrique, 95%. Ça permet de se déplacer en volant avec 4 fois moins d'énergie. Avec de l'hydrogène, les rendements sont un peu moins bons, mais on est de l'ordre de 80%, entre 60 et 80%. Donc c'est un moyen. Ces technologies-là, de continuer à voler en utilisant moins d'énergie brute que ce qu'on fait maintenant.
On
n'est pas là pour vendre des avions, on est là pour montrer aux jeunes, vous savez, voler, c'est vraiment le plus vieux rêve de l'humanité.
Oui,
et les jeunes aiment voler, ça les fait toujours rêver. Le Petit Prince, imaginez, on est dans le pays du Petit Prince, on devrait leur dire que demain on ne pourra plus voler. Est-ce que vous pensez qu'ils vont adhérer à ces changements, qu'on doit réaliser tous ensemble pour se décarboner? Si on leur dit que demain on ne pourra plus voler, il faut leur montrer que demain peut être meilleur.
Racontez-nous techniquement.
C'est un avion solaire, on capte l'énergie du solaire avec des cellules solaires. Ouais. Pour faire tourner un moteur électrique, on a des batteries aussi. Et l'objectif, c'est d'aller tenter de rejoindre la stratosphère avec le premier avion électrique.
Donc 10 000 mètres de hauteur.
Alors cette année, c'est 10 000 mètres, mais après, c'est encore plus haut. On espère monter en dessous de la Trompopose, environ de 16 km. On a déjà fait plein de premières. J'ai sauté de cet avion.
Vous êtes combien dans l'avion ?
Alors, en vol record, on est seul, mais j'ai déjà sauté de mon avion. On était les premiers à sauter depuis un avion électrique et solaire, devant les Américains qui ont vu nous passer devant. On était les premiers, nous, ici en Europe. Ouais. On est super fiers de ça, de pouvoir faire de la chute solaire.
Il existait des projets d'avions stratosphériques qui fonctionnaient justement avec un certain nombre de technologies très innovantes, en sachant qu'un avion, ça plane. Donc, ça a quand même un gros avantage. Après, jusqu'à présent, ça reste du développement technologique très en amont. Mais il y a quand même le sujet de l'économie, parce qu'on parle beaucoup des carburants, etc., qui existeront. La quantité de carburant dont on aura besoin, elle va sans doute diminuer. Je prends le modèle d'un petit avion qui existe aujourd'hui. Il fait 70% d'économie par rapport à la génération.
Vous appelez petit avion.
C'est un petit avion
qui transporte combien de
temps ? Alors, c'est un avion de deux places, fabriqué par des Rochelais, Elixir, et qui permet de faire de la formation de pilote aérien. Il a un moteur encore thermique, mais 70% plus économe, moins consommateur que la génération précédente. Le moteur Engineus, dont on a parlé au début de Safran, il va permettre d'hybrider. Il va permettre d'hybrider des gros avions qui permettront de
moitié thermique, moitié
électrique et qui permettront de faire 20% d'économie par rapport à la génération actuelle, qui est déjà 20% d'économie par rapport à la génération précédente. Donc ça fait 50%
sur des gros porteurs.
Ça fait 50% d'économie sur 30 ans.
Vous voulez réagir?
Donc c'est quand même très intéressant.
Il y a dessus 120, vous le bardez de panneaux photovoltaïques de la
A320 de Airbus.
A320. Bardé de panneaux de la génération, admettons, avec 100% de rendement, et vous faites fonctionner que le cockpit. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance motrice, elle est hors de portée. Il faudrait plusieurs terrains de football pour un A320. Ce qui marche, c'est si vous êtes tout seul dans des conditions, j'imagine, assez spartiates, avec un avion quand même assez grand, des ailes assez longues.
Très haut,
là, vous y arrivez. C'est ce qu'il réussit à faire. Il ne faut pas du tout généraliser ça à un gros porteur. Deuxième chose sur le progrès technique. Mais le progrès technique des moteurs, depuis 50 ans, on a divisé par 4 la consommation de carburant.
Oui. C'est déjà ça.
C'est super. Sauf que le problème, c'est que le trafic, il augmente beaucoup plus vite que le progrès technique. Et que même, je vais vous dire, si vous preniez un vol Paris-Rome en 1950 avec un vieil avion hélice de l'époque, et puis un avion d'aujourd'hui, l'impact sur le climat, c'est le même. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On est passé aux avions à réaction, on a doublé la consommation de carburant lorsqu'on est passé aux avions à réaction. Depuis, on a divisé par 4, mais on avait rajouté les traînées de condensation en volant plus haut. Donc à l'arrivée, vous voyez le progrès technique en fait.
Alors,
en fait, il se fait supplanter complètement.
Vous avez raison,
par, par la croissance.
Mais ces avions turbopropulseurs, ils existent. On peut faire Paris-Bordeaux avec un ATR et on consommera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avec un jet.
Alors, attendez.
C'est ce moteur qui vient de sortir. C'est une bonne idée, malheureusement.
Dommage.
C'est super envie le dirigeable, mais ça va pas ça peut transporter beaucoup de monde parce qu'il faut beaucoup de monde au sol, ça prend beaucoup de place, c'est complexe. Il faut de l'hélium, un gaz extrêmement cher. On met l'hydrogène, mais à ce moment-là, c'est très dangereux. Non, je pense pas que ça ce soit le futur. Je pense qu'il y a d'autres choses à imaginer. Mm. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. On doit changer notre monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit revenir à ne plus prendre d'avion, à ne plus se déplacer. Il faut faire les choses avec plus de conscience. Mais ce qui est important, et c'est ça que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire rêver les jeunes. Si on veut que les jeunes adhèrent à ces changements, il faut qu'on leur montre des perspectives. Des fois, Laurent, je suis désolé de vous écouter parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on aille se suicider tout de suite.
Ah, pas du tout.
Il faut des perspectives.
Très bien.
Il faut être optimiste, avoir l'esprit de pionnier. La France est un pays pionnier. Continuez comme ça.